France Culture.
Bonjour Marenzel. J'ai essayé de le prononcer.
Vous améliorez pendant l'entretien, c'est bien.
Mais je pense que je vais reprendre le français assez vite. On se retrouve pour le deuxième temps de ces épisodes à voix nue, qui sont au nombre de 5, évidemment. Vous nous parliez dans le premier épisode de la sensation d'étouffement de la génération qui fut la vôtre, génération d'après-guerre en Allemagne. On va parler dans ce deuxième temps, si vous le voulez bien, des échappatoires qui ont pris la forme pour vous, dans un premier temps en tout cas, avant l'écriture, avant l'édition, d'engagement, d'indignation, même peut-être des tentations de ce que vous appeliez hier les agissements extrêmes. Alors déjà, est-ce que vous diriez que cette histoire qui a été la vôtre, c'est-à-dire d'être née en Allemagne en 1945, et avec tout ce que ça comportait comme culpabilité, honte, etc., explique les engagements qui ont été les vôtres par la suite ?
Complètement, oui. Alors sur le plan, extérieur, ce qui m'a motivée pour m'engager politiquement, c'était une manifestation dans la ville de mes parents, la deuxième ville après Flensburg, Zweibrücken, où en 1967, je pense, il y avait une manifestation dans cette ville, 30 000 habitants, paisible, avec un château au milieu, enfin voilà. Où une manifestation a été annoncée pour protester contre la candidature de Heinrich Kissinger, candidature pour devenir chancelier. Et je me suis rendu sur la place devant le château et j'ai vu que j'étais pas seul et on avait trouvé un slogan. Il faut dire que ça tombait bien parce que évidemment et les voyelles et les consonnes etc sont importants pour manifester une approbation ou au contraire quand c'est dans une admiration on dit ah et là c'était le S c'était Kissinger ist ein Faschist non donc il y avait comme un sifflement dans cette protestation et je me suis senti dans un collectif de jeunesse qui en avait ras-le-bol de la présence des anciens nazis dans des institutions, ce qui était le cas, et de cette présentation d'un futur chancelier qui était un ancien SS pour diriger l'Allemagne. Et bon, ça c'était déterminant parce que ça m'a motivé toute ma génération, enfin, intellectuellement et aussi dans les combats qu'ils ont menés.
Alors cette conscience politique a commencé par cette manifestation de Zweibrücken en 66 ou 67. Vous vous êtes aussi inscrite, en même temps que vous vous inscrivez à la fac de Sarrebruck, Marenzel, vous vous êtes inscrite, alors je ne sais pas si on dit, vous avez pris votre carte d'adhérent à l'Union des étudiants socialistes allemands qui était alors dirigée par Rudi Dutschke. Oui. Qu'est-ce que vous y trouviez dans ce mouvement-là, les jeunesses socialistes ?
Une revendication sociale, plus de justice sociale, un collectif qui vous rend toujours plus courageux que vous l'êtes individuellement. Ouais, voilà. Donc de partage, le même point de vue, on était complètement non éduqués, parce qu'il n'y avait pas de parti communiste, on n'avait plus rien de tout ça en Allemagne. Donc on avait des lectures communes, on partageait la lecture de Marx, Donc, il y avait un fond commun, non, qui était là, alors extérieurement très à gauche. Il n'y avait pas encore, enfin, c'est arrivé très vite, des distinctions. En France, c'était plus rapide. Enfin, les trotskistes, l'anarchistes.
Entre les différents mouvements d'extrême gauche.
Voilà, non. En Allemagne, on était socialistes et on était dans la honte et on lisait des poésies et Karl Marx.
Et vous alliez manifester. Parce que l'événement fondateur de ce mouvement, si je ne m'abuse, ça a été la mort d'un étudiant tué
Benno Ohnesorg à Berlin.
Tué en 1967 par un policier.
Par un policier qu'on soupçonnait être de l'Allemagne de l'Est, qu'il a été infiltré et qu'il voulait créer des ordres à Berlin-Ouest.
Voilà. C'était un attroupement contre la venue du Shah d'Iran au RFA, oui. À ce moment-là, en République fédérale.
Et alors, à l'opéra, il donnait la flûte enchantée, ce soir-là, et le Shah, il a assisté à la flûte enchantée qui a été enchantée pour lui, qui devait l'enchanter. Et en même temps, il y avait cette manifestation à l'extérieur contre le char. Et c'est à cette, au début, c'était, moi, j'y étais pas, hein, mais ça, c'est vraiment des récits qu'on a eu après. Et la police a tiré tout de suite sur des manifestants qui étaient en train de s'amuser, enfin de protester. Mais ils ont balancé des pétards, des trucs, des bombes puantes ou je sais pas quoi. Et dans un premier temps, les policiers n'étaient pas trop agressifs. Mais il y en a un qui a tué Ben Oudenzorg. Et là, c'était comme une soudure, non? C'était une soudure du mouvement. C'est-à-dire, on avait notre premier mort et on déplorait notre premier mort. Et évidemment, ça, le cran de désespérance a monté d'un cran, enfin, dans le mouvement étudiant. Ouais.
À l'époque, Marensel, vous vous dites quoi? Vous étiez énervé, révolté, radical?
Oui, radical, oui. 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 Vous Mais c'est vous... là que toute la radicalité s'est catalysée à ce moment-là, non? Parce que on était tous là, enfin tout confondu, mais aussi les plus radicaux de tous, c'était la future Bona Bader, qui avait fait quelque chose aussi d'assez anodin. Ils ont mis le feu dans un grand magasin, Bader, Enslin et Torvald Proll, non, dans un grand magasin à côté de Francfort, où il n'y a pas eu de dégâts. Enfin, c'était quelques marchandises qui ont brûlé. Mais c'était un peu dans le sens des situationnistes, c'était de faire remarquer au peuple qu'on est en train de sombrer dans une société de consommation, non? Alors ils ont été recherchés, donc il y avait des photos dans toute la presse allemande. Ils ont dû fuir, ils ont fui en France, et ça je le raconte.
Et ça, vous allez nous le raconter, mais il faut d'abord qu'on comprenne comment vous êtes venu en France, Marensel.
Ah oui, d'accord.
Où est-ce que vous avez passé mai 68?
À l'hôpital.
Ah, non, j'allais vous demander si c'était en France ou en Allemagne.
Non, parce que j'ai été, malheureusement, j'ai été fille au père en 67.
À Paris. Vous veniez faire une thèse sur Barthes, sur Roland Barthes.
J'avais commencé une thèse, que j'ai jamais fini. Hein. Bon. Donc j'étais fille au père à Paris, boulevard Saint-Germain. J'ai des bons souvenirs, il n'y avait rien du tout, un petit lavabo et un fil au-dessus de mon lit, où j'accrochais mes trois trucs. Et puis le soir, j'allais à la Comédie Française, tout en haut, pour avoir chaud un tout petit peu, enfin bon, pour être à l'abri. Et comme j'avais pas mangé non plus beaucoup, je suis tombée dans les pommes, et les pompiers me, plusieurs fois, et les pompiers me connaissaient déjà, parce qu'à chaque fois, ils étaient obligés de me ramasser. Bon. Donc ça, c'était la première expérience. Après, je suis retournée à Fribourg pour les études, et je suis partie faire du ski et je me suis cassé une jambe. Donc j'ai suivi mes 68
à distance,
très à distance, dans un hôpital suisse. Et après, il y avait un camarade de qui venait de Paris, qui s'appelait Jean-Marcel Bougreau, qui a été invité, parce qu'il parlait allemand, qui a été invité par le Rudi Dutschke et le mouvement de Rudi Dutschke. Et il a raconté, mais vraiment raconté comme une story, non? Mes 68 dans les détails, etc.
Vous aviez l'impression d'y être, quoi.
Oui, oui, c'était tellement vivant qu'à la fin de sa conférence, je me suis dit, mais peut-être que je vais prendre son numéro de téléphone et quand je vais retourner à Paris, je vais pouvoir le contacter, ce que j'ai fait.
La venue en France, la venue à Paris pour faire vos études, c'était une nécessité pour faire cette thèse jamais terminée, mais quand même sur Roland Barthes, Marensel, où il y avait aussi ce qu'avait transmis votre père, c'est-à-dire cet amour de la langue française,
ah oui,
cet amour de la France, qui vous avait attiré et qui a fait que vous êtes allé vous installer en France.
Absolument. Le choix de la France, c'était papa, non? Je voulais mais honorer de cette façon-là. D'ailleurs, il adorait me rendre visite à Paris. Voilà, c'est bien. Oui, donc c'était oui, c'est ça, dans mon oreille. Et puis j'avais lu. Enfin, on parlait pas parfaitement le français quand on étudie le français, hein, mais enfin, j'avais quand même une bonne lecture du français.
Et après, vous avez rencontré celui qui donc a réussi à vous appeler par votre nom prononcé correctement en allemand, c'est-à-dire Zell. Autrement dit, Daniel Cohn-Bendit.
Oui.
Vous savez, quand Daniel Cohn-Bendit et ceux qu'on appelle en France les 68 arts, à cette époque-là.
Mais alors, je l'ai pas vu beaucoup, hein, Dany, mais on était un peu sur des destins parallèles, quoi. C'était un très grand ami c'est toujours un très grand ami de Jean-Marcel Bougreau, donc qui était mon.
Que vous avez fini par contacter.
J'ai fini par contacter et j'ai vécu avec lui. Mais alors, dans la rencontre, ce que je viens d'amorcer, là, de l'arrivée de la bande Abadère à Paris, l'intermédiaire, c'était Dany qui disait, parce que nous, on avait avec Jean-Marcel un appartement petit.
Rumange, dans le 5e arrondissement.
52 Rumange, ouais, voilà.
Donc, c'est là, dans ce petit appartement Rumange à Paris, que vous rencontrez par l'intermédiaire de Daniel Cohn-Bendit, Gudrun Hensling, pardon pour ma prononciation,
bon.
Thorvald Proll, et un troisième énergumène moins sympathique, qui était le meneur de la bande, Andreas Bader, qui sont en fuite parce qu'ils ont été ils ont mis le feu à un grand supermarché
oui.
À l'époque en Allemagne. Vous les rencontrez à Paris, vous les hébergez. On est avant qu'ils ne deviennent, Marensel, des terroristes. Avant qu'ils ne fondent la fraction Armée Rouge. Mais ils sont déjà en cavale. Et Ulrich Meinhof, qui rejoindra le groupe après, n'est pas encore là.
Oui.
Ulrich Meinhof oui, est le quatrième exact. Membre, oui. La quatrième membre de cette bande Abadère. À l'époque, quand vous les rencontrez, qu'est-ce que vous éprouvez pour eux? Qu'est-ce qu'ils représentent? Eux et leur activisme. Alors, Andreas Bader, vous l'aimez pas tellement. Mais leur activisme, leur action, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous à l'époque?
Gudrun, elle me ressemblait, même un peu physiquement, mais elle était protestante, fille d'un pasteur. C'était une passionnariat, c'était une femme très cultivée et qui, à elle seule, mais aussi influencée par Bader, trouvait qu'il fallait casser tout ça, quoi. Cette société d'anciens nazis et c'est pas en faisant comme ça des grands discours etc qu'on arriverait. Donc elle a accepté la violence. Elle était folle amoureuse à mon avis de Bader. Donc
c'est joli le carillon là à côté de chez vous.
Non parce que c'était quand même toujours aussi avec les désirs les plus extrêmes. C'était pas seulement les actions les plus extrêmes, c'était des désirs aussi les plus extrêmes. Et on sait ce que c'est parce que on a eu des idoles comme ça dans le mouvement d'extrême gauche. Et c'était toujours Bader, c'était le prototype, c'est d'aller plus loin dans la désinhibition, c'est-à-dire de être de moins en moins inhibé par rapport à l'application de la violence. Et Bader, il fonctionnait comme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un disait, oh, il faudrait le séquestrer, par exemple, il dit, mais non, on a carrément le tuer, non? Voilà, bon. Donc, c'était cette surenchère qui pouvait les rendre détestables, mais qui pouvait aussi, dans une certaine logique de mortuaire, être attirant. Et la logique mortuaire, dans le romantisme allemand, vous trouvez ça quand même beaucoup. Hein. C'est-à-dire, par exemple, Heinrich von Kleist, non, que j'adore comme écrivain, l'expression la plus sublime de l'amour, c'est d'en mourir. Hein. Voilà.
Vous avez été tenté, vous, un temps, par ça, ou vous avez tout de suite dit non? Et la question corollaire, c'est qu'est-ce qui fait que vous ne les avez pas suivis? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas accepté la violence?
Oh, j'ai accepté la violence jusqu'à un certain degré, hein. C'est-à-dire de braquer.
Pas tuer?
Non, pas tuer. Mais braquer une banque, pourquoi pas? Bon. Non, pas tuer, je le dis dans mon livre, mais je ne sais même pas tout ce qui, ce qui m'a traversé. En tout cas, c'était niet. Je pouvais pas compter sur moi. Il y a beaucoup de choses qui ont joué. Je sais ce qui a joué. C'est évidemment la Bible. Hein. Tu ne tueras pas. Hein. C'est aussi plus tard, en avançant dans la possibilité d'une sublimation, le sacrifice d'Isaac par Abraham, où au lieu de sacrifier vraiment Abraham, il y a une substitution. Donc c'est l'agneau qui arrive. Et donc je me suis dit, mais Dieu ne demande jamais de tuer quelqu'un. Donc on peut toujours trouver une substitution. Voilà, il y avait ça. Et il y avait, ça c'était très important, parce que moi j'avais commencé une psychanalyse. Alors en Allemagne, on était resté avec Freud, mais pas du tout dans mes milieux. C'était en France, quasiment tout le monde était en analyse à ce moment-là, non? Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement salutaire. Et comme moi, j'étais un peu dans un groupe là qui s'appelle Confrontation. C'était René Major qui avait créé ça, et il y avait Derrida. C'était un mélange psychanalyse philosophie. Et je substitue la parole à l'acte. Non, ça c'est quand même un des principes de la psychanalyse. Et donc je me suis dit, je vais pouvoir en parler. Au lieu de prendre un fusil, je vais écrire. Voilà, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait.
C'est ce que vous avez fait, vous, et d'autres n'ont pas suivi ce même chemin, puisque l'Allemagne de l'Ouest a connu les années de plomb, de 1970 à 78. La bande Abader a assassiné, a commis des attentats, ils ont été enfermés dans une prison, ils ont mené une grève de la faim. Certains, en France en tout cas, effectivement, ont été assez fascinés par eux. Jean Genet a écrit un article en soutien dans Le Monde quand la bande Abader a fait sa grève de la faim. Sartre aussi. Cohn-Bendit et Bouguereau se sont rendus dans la prison où ils étaient, à Stammheim. Voilà, tout ça s'est mal fini. On a retrouvé Gudrun Enslin et Bader morts en prison un matin. Ça a très mal fini. Mais donc cette époque-là, effectivement, c'est une époque où vous êtes là sans y être complètement. Vous avez quand même adhéré, Marensel, à la gauche prolétarienne.
Oui.
Vous êtes devenu maoïste. Et à un moment, dans Tout est là, dans votre livre itinéraire, vous écrivez, et on retrouve la dualité, « Au fond, j'ai toujours triché avec la Révolution. Le jour, je chantonnais en chœur avec les camarades « Du passé, faisons table rase ». Et le soir, je revenais à mes classiques, Stendhal, Montaigne, Flaubert, Thomas Mann, Robert Musil et la musique baroque. Notre culture, notre éducation reste un socle », concluez-vous.
Ben oui, heureusement, ça. Quand on les a accueillis, on voulait les sauver quand même. Non, moi, c'est une ligne directrice, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, si à la lutte s'ajoute la notion de pouvoir sauver par son propre engagement ou non-engagement, ou enfin voilà, j'ai eu quand même beaucoup de fréquentations où quelqu'un était à sauver, ou peut-être fallait que je me sauve aussi, enfin bon. En tout cas, je sais que ce qui m'a motivé pour écrire mon premier livre, c'était pas de me dire, formidable, je suis écrivain, enfin, pas du tout. Je me suis dit, je suis la seule qui les a connus, d'abord, la bande Abader, qui peut comprendre ce qui se passe en Allemagne et quelle était leur motivation. Donc j'ai une sorte de mission. Et ma mission, c'est de faire comprendre aux Français pourquoi ce ne sont pas des monstres. Hein, pourquoi ce ne sont pas des monstres. D'ailleurs, ça me fait pleurer quand j'y pense. C'est des êtres en douleur extrême. Voilà. C'est pour ça que j'ai écrit le premier livre. Ça, c'est absolument
évident. Mourir d'absence.
Oui, mourir d'absence. Et oui, alors, j'ai toujours triché avec la Révolution. Parce que je crois que j'avais déjà, à ce moment-là et depuis longtemps, une idée de réconciliation.
Ça, c'est Albert Schweitzer, ça. C'est le souvenir de ce prix Nobel de la paix 1952, ce grand docteur que vous avez rencontré quand vous aviez 14 ans. Qui voulait faire le bien.
Voilà.
C'est ça, non?
Oui, c'est exactement ça. Parce qu'après avoir découvert l'horreur là, dans la cave, etc., où je me suis dit, mais voilà, tous les hommes apparemment sont des monstres. On a eu avec le procès Pellicot, non? Une femme, c'est rien, c'est un objet, c'est morte ou vivante, on s'en fout. Enfin bon, voilà.
Donc, c'est... Cette photo que vous aviez vue dans la cave quand vous étiez petite,
voilà,
donc
ça.
Après ça.
Oui, oui. Et voilà, donc ma mission, enfin, de toute façon, c'était faire le passage, oui, parce que je suis devenue une passeuse entre l'Allemagne et la France, entre la littérature allemande, la littérature française, etc. Mais au lieu de foncer droit, comme ça, vers une révolution, où on savait quand même, et j'étais proche de Glucksmann, qui avait écrit la cuisinière Les Mangeurs d'Hommes, non, en 76, je pense. Donc on savait que trotskiste ou maoïste ou bolchevique, ça allait vers le goulag ou vers de nouveaux camps de concentration après les concentrations qu'on a connues par les Allemands. Donc quelque chose en moi me disait mais c'est pas possible de recommencer quoi. Donc j'ai voulu avoir comme ça un positionnement de réconciliation, c'est-à-dire j'aurais pu me dire de la même manière. Bon, j'ai triché avec la révolution, mais je me souviens que j'ai fait écouter la musique classique à mes camarades assez exaltés qui chantaient que le chant des partisans, et ça leur a quand même plu, non? Donc j'ai toujours essayé de transmettre mes propres vibrations, mes propres désirs, mes propres affinités, et un peu les transmettre à d'autres.
L'hésitation entre le stylo, la plume et les armes, c'est aussi ce que vous avez vécu en participant à l'aventure de la création du journal Libération, créé en 1973, Marine Selle, parce que c'est aussi une façon de s'engager, d'être journaliste et de prendre la plume et d'aller la remuer dans la plaie, pour reprendre l'expression d'Albert Londres. Mais vous êtes là aussi, dès le début des années 70, vous devenez journaliste à Libération. Alors, vous êtes envoyé spécial à Besançon, par exemple, à l'été 73, pour suivre le mouvement LIP.
Oui.
Je ne sais pas si c'est ce mouvement-là, ou plutôt l'année suivante, quand vous êtes envoyé au Portugal, au moment de la révolution des œillets, qui a mis fin à 40 ans de la dictature de Salazar, qui est votre souvenir le plus fort, je ne sais pas.
Enfin, c'est derrière tout ça, c'est évidemment... un désir d'être accepté par la société française. Enfin, bon. Donc, j'ai fait beaucoup de choses pour me faire accepter. Avant Libération, il y avait... C'est là où on était tout petits. On avait créé, avec les Mao, une... En plus, bon, j'étais accepté parce que j'étais quand même... pas dans le même créneau, non, que les autres. C'est-à-dire, je pouvais toujours tricher un peu.
Comment
parce
ça?
Parce que j'avais des relations avec l'Allemagne tout le temps, donc j'étais bien informé de ce qui se passait en Allemagne, mieux que les autres. J'avais quand même lu Heidegger, enfin, pour les fois, ou l'École de France. Enfin, bon, j'étais un peu cultivé. Donc, j'étais un peu hors comment dire, hors...
Chapelle?
Oui, hors chapelle ou hors norme, non? Un peu, enfin, marginal, même dans l'acceptation de ma personne, mais je restais marginal. Hein. Et je pense que je le suis toujours. Je me vis pas du tout comme entièrement une ou entièrement l'autre. Enfin, non. Bon. Donc, on est toujours comme ça, un tout petit peu en marge. Et la définition de Benjamin, là, de Luftmensch, ça me va très bien. C'est-à-dire, on a perdu un peu le sol, on ne sait pas très bien de quel sol on... Je suis anti-identitaire, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui.
Bon. Mais vous disiez que vous avez fondé un petit quelque
oui,
chose
donc,
avant Libération.
Donc c'est l'agence presse
Libre.
Libération, APL. On avait un petit bureau rue de Bretagne, au premier étage. Et notre tâche, c'était de récolter les informations venant de la base, des luttes... Pour des meilleurs logements dans Bretagne, de tel petit mouvement, voilà. Donc on récoltait en fait des petits récits de lutte, on est international aussi, hein, Italie, enfin européen, tout ça, et avec ça on faisait des petits textes. Et il y avait deux garçons en mébulette, pas seulement des garçons, des filles aussi, qui allaient avec ces dépêches dans la rédaction du Monde, dans enfin, le Figaro, enfin, Qu'est-ce qu'il y a au,
c'était comme l'agence France Presse, mais à la marge.
Mais à la marge, voilà, c'est exactement ça. Et c'est de cette organisation-là que naît Libération. Donc, je me souviens, les premières réunions, il y avait Maurice Clavel, d'accord, il y avait Jean-Paul Sartre, il y avait Philippe Gavy, donc nous, on était donc l'AGP. Enfin, moi, j'étais l'AGP, mais j'étais une femme de l'AGP, une des femmes de l'AGP. On n'avait pas droit de la parole, hein, je veux dire, on était... ça, aujourd'hui, quand on dit ça aux filles d'aujourd'hui, qu'il y avait des réunions où on était, on était sur le dernier banc et on écoutait ce que disaient les chefs, non? Et à la suite de cela, il y a eu des groupes de parole. On appelait ça des groupes de parole. C'était des femmes qui se trouvaient entre elles pour ouvrir la bouche, quoi, pour oser ouvrir la bouche. À l'époque, c'était comme ça. Donc.
Après, vous vous êtes occupé des pages femmes de Libération.
Oui, oui, oui.
C'était compliqué, d'ailleurs.
Oui, oui. Non, mais je veux dire, il y a Libération qui est sortie de ce APL. C'était un bel engagement. Donc, on n'osait pas, vous dites, journaliste. Je peux pas vraiment dire de moi que j'ai été journaliste. Enfin, j'ai essayé de passer des informations, oui. D'accord.
Vous avez fait un peu de reportage, quand même. Quand vous étiez au Portugal, vous étiez en reportage.
Donc, c'était en 74, oui. Donc, Libération existait à peine, enfin bon, un an et demi.
À peine un an.
Et celui qui était directeur de publication de Libération, c'était Serge Julie. Et il trouvait, enfin moi j'avais vu des photos, j'avais lu des choses, je me suis dit, mais c'est génial ce qui se passe au Portugal. Donc j'avais envie de partir avec Pierre Audibert. Et Julie a dit, c'est pas une révolution, enfin non, c'est pas une révolution, c'est pas avec des œillets dans la main qu'on fait une révolution. Bon. Et on est parti quand même, et c'était absolument formidable. On a dit le plus grand bien de cette révolution, qu'on est resté un petit moment. Dany est venu d'ailleurs, Glucksmann, enfin tout le monde est venu.
Daniel Cohn-Bendit, André Glucksmann.
Oui, oui, oui. Et j'avais loué un petit truc qui s'appelle le nid des aigles. Et dans ce nid des aigles, on s'était tous retrouvés. Et Othello, qui était le chef d'un charisme absolument incroyable, il disait qu'ils ont fait cette révolution en s'inspirant de mai 68.
Comme quoi, tout se tient. Hein.
Mais voilà, ça se tient quelque part.
Vous quittez le journal en désaccord avec la ligne du patron Serge Julie au retour de ce voyage. Vous rejoignez, Marensel, le département d'études féminines de l'université de Vincennes, mené alors par Hélène Sixou. Et c'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant, l'épisode 3, une vie d'amour au pluriel et de livres au pluriel. Merci et à demain.
D'accord.
C'était À Voix Nue avec Marensel, réalisation Gaël Gilon, prise de son Florent Layani, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.